Salut les princesses, les problèmes de logistique sont enfin résolus et les deux inséparables de la bande FM Rochelaise sont de retour sur les ondes avec cette nouvelle saison du New Breakfast Club. Nouvelle saison parce que aussi beaucoup de nouvelles rubriques.
Oui, oui, on va changer un petit peu le sommaire de cette émission. On va abandonner quelques rubriques qu'on nous reprochait beaucoup, hein. Et, oui. Et puis celles dont on s'est lassé par nous-mêmes. Et donc on va vous proposer quelques petites modifications qui, j'espère, vous plairont. En introduisant, par exemple, un petit peu comme dans les dernières émissions qu'on avait fait juste avant l'été, des rubriques un petit peu plus personnelles qui vont nous obliger à fouiller un petit peu ou dans nos souvenirs ou dans nos discothèques respectives. Mmh. Avec par exemple une rubrique qu'on appellera ou qu'on appellera plus ensuite d'ailleurs, on y passera tout de suite, au je suis passé par là. C'est-à-dire qu'on évoquera des disques qu'on a pu chérir éventuellement, ou peut-être pas jusque-là, mais qu'on a pu écouter à une époque de notre vie, et aujourd'hui, ou bien on les a oubliés, ou bien on a carrément honte de les avoir chéris.
Et donc ou bien ils nous sont devenus indifférents.
Ou ils nous sont devenus indifférents, tout simplement. Bien sûr, c'est pas obligé d'être aussi passionné, mais on essaiera d'être honnête avec nous-mêmes, et ça fera peut-être parfois grincer des dents, rire les voisins.
Je sens qu'il va y avoir des belles choses.
Mais ça pourrait être assez chouette. Dans un genre à peu près analogue, on vous proposera aussi le jardin secret, My Secret Garden, où tour à tour, chaque semaine, Sonic et moi-même proposerons à l'autre des extraits de notre discothèque, cette fois-ci, que l'autre ignore un petit peu. C'est-à-dire que bon, on partage hors antenne pas mal de choses et pas mal d'élan. Mais il y a aussi notre part à nous, des choses qu'on écoute sans spécialement en informer l'autre. Ni
peut-être
partager.
Parfois aussi parce qu'on a un peu peur du regard de l'autre. Ça peut arriver.
Oui, ça pourrait arriver. Oui. Donc il y aura cette nouvelle rubrique-là également. Et puis les nouveautés désormais, exceptionnellement aujourd'hui on va vous en passer une intégralement, mais désormais on va vous les passer sous forme de blind test à la fin de l'émission, ainsi que la reprise de la semaine, c'est-à-dire qu'on vous passera une minute trente de chacun des extraits. Et puis on vous invitera à essayer de deviner ce que c'est. Et nous débrieferons tout ça la semaine d'après, où on s'épanchera un tout petit peu plus sur les extraits en question.
Une émission donc encore plus interactive, avec encore plus de jeux.
Plus de jeux, certainement plus de musique et d'extraits, et moins de bavardage peut-être, malgré ce tunnel narratif
qui inaugure cette première émission. La nouveauté de la semaine, c'est tout de suite.
Alors cette nouveauté, tu me l'aurais passé en blind test, je t'aurais dit c'est bizarre, ça ressemble aux Strokes, mais c'est pas la voix des Strokes.
Ouais, je regrette maintenant de ne pas te l'avoir passé dans le blind test final des nouveautés, parce que effectivement, il s'agit de la moitié créatrice, compositrice des Strokes, il s'agit de Albert Hammond Jr.
Très bien.
Et qui se plaignait que ses compositions passent un peu à la trappe au sein des Strokes, et donc il a voulu faire son album solo. Alors, ça laisse planer...
C'est comme si George Harrison avait fait le sien des Rubber Soul, en fait.
Voilà, exactement. Ouais. Et ça laisse planer des doutes quant à la suite des Strokes, ouais, parce que si c'est aussi bien que ça, est-ce qu'il a besoin de l'autre moitié?
Il a eu un
accueil critique délirant, tout à fait mérité, hein. 8 sur 10 dans le New Musical Express. Bon, j'ai écouté l'album, ça c'est vraiment le meilleur morceau.
Ouais.
Bon, on retrouve la thématique The End Has No End du deuxième album, sans l'aspect électronique. Pour moi, c'est vraiment la meilleure chose que j'ai écoutée depuis un mois, quasiment depuis vraiment le début de la rentrée officielle. Je trouve ça vraiment très très bien.
Non, mais c'est bien. Mais donc, c'était la dernière fois que vous entendiez une nouveauté intégralement, puisqu'à l'avenir, ça sera sous forme de blind test. On se préviendra pas ni l'un ni l'autre, Sonic, Eric et moi-même, mais on vous préviendra pas non plus, et ça sera à vous de trouver pendant une petite semaine, entre deux émissions, ce qu'on vous a passé. Bon, par contre, cette rubrique n'a pas changé. Elle était apparue en cours de saison l'année dernière, les trésors cachés. On vous l'avait pas proposé depuis le début de l'émission.
Oui, au mois de mars, si ma mémoire est bonne.
Oui, c'est ça. Et donc, on s'était quitté sur un trésor caché qui venait de toi. Donc, je reprends le flambeau et je vais vous parler aujourd'hui.
Me demande pas quel trésor.
Ah non, mais moi non plus là.
Je m'en rappelle plus.
L'évoquant soudain, je me suis dit, mais c'était quoi? Je vais vous parler de quelqu'un qu'on a souvent évoqué ici, qu'on a d'ailleurs déjà écouté, puisqu'il s'agit de Claudine Longet.
Oh, Claudine.
Claudine Longet, bon.
La merveilleuse.
Cette fois-ci, je vous promets qu'on vous passe pas un morceau de Claudine Longet, mais elle est concernée par le morceau du jour. Parce que Claudine Longet, donc, on vous en avait déjà parlé, a fait quelques albums de reprise à la fin des années 60, après le succès qu'elle avait eu dans The Party de Black Edwards avec Peter Sellers. On aime beaucoup sa voix, on aime beaucoup sa personne, on aime beaucoup son univers.
Ce qu'elle représente. Hein.
Et on aime
le concept.
On aime aussi la part de drame qu'il y a dans son existence, puisqu'elle avait été au cœur d'un fait divers un peu sordide, sans doute moins sordide que les faits divers qu'on a ces jours-ci autour de nous. Il n'y a pas de congélateur dans l'histoire, mais il y a quand même un coup de fusil sur son mari à l'époque. C'était en 1976.
Elle nettoyait une arme de chasse alors que son mari prenait son bain.
Voilà.
C'est pas des choses qui se font, ça.
Voilà. Encore un mec dans un bain à qui il arrive des bricoles. il n'était pas décédé. Hein, non, il n'était pas décédé. Mais bon, elle avait été inculpée, et puis elle a fait que 30 jours de prison. Si, il est mort.
Mais je savais pas qu'elle avait fait de la prison.
Elle a fait 30 jours de prison pour homicide involontaire.
Ouais.
Et sa carrière était déjà plutôt éteinte, hein, à Claudine, mais enfin ça l'a pas aidé à se relever.
C'est marrant, il y a des faciès qui font plus facilement innocentes victimes que d'autres, hein.
Oui,
c'est marrant.
Oui.
Ça aurait été cher, je suis pas sûr qu'elle aurait fait que 30 jours de prison.
Ouais, c'est pas faux, hein, comme le dit la petite vanne à la mode en ce moment. Et donc cette chanteuse et ce drame avaient inspiré un monsieur, en l'occurrence Mick Jagger.
Ah oui,
qui avait écrit puis enregistré avec les Rolling Stones un titre évoquant Claudine, qui s'appelait Claudine, qui était prévu sur Emotional Rescue en 1980,
ouais.
Et qui à la dernière minute, pour d'obscures raisons un peu frileuses sans doute, a été écarté du track listing. Et c'est précisément ce morceau qu'on trouve sur des bootlegs et sur des compiles de trésors cachés justement des Rolling Stones, qu'on peut écouter ce titre-ci. Voici Claudine. Claudine's back in jail again. 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 She only does it every day, Claudine.
blooded the shadows of the leopard snow. She washed the hands of the whole damn show. Claudine. She shot him once right through the head. She shot him twice right through the chest. Dead rule, it was an accident, Claudine. Accidents will happen.
L'intérêt de la
oui,
musique
oui,
et
on appréciera l'anecdotique de
oui,
la
est
chose
très modeste. Mais l'anecdote musicale, est très belle quoi. L'anecdote voilà. est très belle et valait le coup d'être
et puis
d'être racontée.
C'était du coup un vrai trésor caché.
Alors pour inaugurer cette nouvelle rubrique,
que vous aurez remarqué grâce à ce nouveau
jingle, je suis passé par là. Et ben moi, je vais évoquer la fin des années 80, le début des années 90, une période où j'avais une très grosse fixation sur l'Angleterre, sur l'anglicité même, si je puis
qui,
utiliser.
Qui t'a depuis
ce...
complètement déserté.
Oui, non, ça ne m'a pas déserté, mais j'avais aussi, tu m'as pas laissé finir ma phrase, mais j'avais aussi à l'époque un vrai goût pour la musique punk. Qui est un peu moins fort aujourd'hui. Je voulais mélanger à la fois ce goût pour une musique un petit peu sauvage, de révolte adolescente, de teenage angst, avec justement le goût pour l'Angleterre. Parce que moi, le côté épingle à nourrice, noyade dans le vomi, c'était pas trop mon truc. Donc je voulais à la fois...
Tu t'es pas noyé une ou deux fois dans le vomi quand même?
Plus rarement que ça. Je voulais à la fois essayer de mélanger ce goût de l'Angleterre avec des groupes punk, mais qui gardent une attitude digne. Je sais pas si je me fais bien comprendre.
Je pense que tout va être clair dès qu'on va entendre ce que tu veux.
Voilà, exactement, puisque je veux évoquer ce groupe qui faisait la synthèse entre les deux, c'était les Jam, le groupe de Paul Weller, qui ressuscitait le mouvement mode et qui, en même temps, avait une pêche, une énergie, un dynamisme qui me plaisait alors énormément. Alors Avant de dire pourquoi aujourd'hui ça me fait un peu moins monter au créneau, ça me fait un peu moins brandir l'Union Jack qu'autrefois, je vous laisse écouter ce morceau de ce qui est considéré, à tort et à raison on en discutera, comme leur meilleur disque, All Modern Conveniences, sorti en 1982, et c'est le deuxième morceau sur la face A, on disait encore face A au début des années 80, To Be Someone.
Must be a wonderful thing. A famous footballer, a rock singer, or a big film star. Yes, I think I would like that. To be rich and have lots of fans, have lots of girls to prove that I'm a man, and be number one, liked by everyone.
Voilà les jams, tu vois, j'écoute ça avec un petit peu de nostalgie amusée, mais pas plus que ça.
Oui, alors... même, oui, en même temps, on parlait pendant là. Hein.
Non, mais attends, j'ai quand même réécouté le disque pour l'émission. Attention, un petit peu de déontologie.
Une ligne de basse qui est pas sans rappeler des choses des Beatles, genre Taxman ou Dr. Robert.
Ouais, et c'est marrant parce que c'est encore plus net sur un autre morceau de ce disque qui s'appelle Start, là, ouais. Qui est carrément pompé à Taxman.
Ouais.
Non, mais je sais maintenant ce qui m'irrite un peu dans The Jam, c'est la voix de Paul Weller. On voit bien dès le deuxième couplet, il force. Il est toujours aux limites, il y a un manque de souplesse, manque d'ampleur vocale aussi qui est assez important chez lui. Et puis un esprit de sérieux qui a tendance un peu à contaminer l'ensemble, un manque de fantaisie, qui est moins vrai d'ailleurs dans son groupe d'après, The Style Council, où il avait été très critiqué, mais où il tentait vraiment autre chose. C'est un peu le mérite du bonhomme quand même, c'est de pas avoir fait toujours la même musique. Bon, non, c'est vrai que ça fait très très longtemps, je l'ai réécouté là pour l'émission, ça fait très longtemps que j'ai réécouté ça, au moins 5-6 ans, et à un moment, à une période de ma vie, j'écoutais beaucoup ça, mais je remarque que d'autres groupes de cette époque que j'aimais énormément ont beaucoup mieux vieilli. Je pense à des groupes comme Madness, ouais. Le troisième album, Seven, ou les quatre albums, hein, j'ai pas envie d'en jeter un, des Undertones, qui datent plus ou moins de la même période, hein, entre 77 et 82, ont, je trouve, beaucoup mieux vieilli que l'intégralité même de la discographie des Jam, même si elle a évolué du punk des débuts à l'ambiance Tamla Motant du dernier The Gift.
Discographie qui est quand même abondamment loué dans tous les dicos du rock, hein, en permanence.
Oui, parce que en fait
ils ont une vraie crédibilité.
Ils ont une vraie crédibilité parce qu'il y a aussi un vrai sérieux. Et pour les Français, Je pense même encore plus pour les Anglais. Les Jams ont le mérite de faire des paroles que tout le monde peut comprendre. Ils s'intéressent à la réalité sociale. Ils sont opposants à Thatcher dans une période où elle est descendue par tout ce qui porte une guitare électrique en Angleterre ou presque. Et donc ils...
Alors que chez nous, faut juste un bandana.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils vont un petit peu dans le sens du poil des rock critiques. Mmh. Pas étonnant que leurs albums figurent toujours dans les top 50 des critiques d'ici. Mmh. Et aussi d'ailleurs d'Angleterre, hein, puisque Paul Weller a toujours des bonnes critiques pratiquement pour tous les disques solo qu'il a fait après. Depuis, alors attention, je suis pas passé par là, ça veut pas dire non plus que je renie ça. On verra plus tard d'autres d'autres artistes que j'ai beaucoup de mal à écouter aujourd'hui. Là, j'ai pas de mal à écouter, mais ça me procure pas d'émotions particulières. Voilà.
Et nous voilà déjà rendus à notre fameux thème central d'émission qu'on n'a d'ailleurs pas annoncé aujourd'hui. Vous ne savez pas du tout de quoi nous allons vous parler.
Et moi-même... un thème qui nous tient particulièrement à cœur. Le dis une fois pour ne plus jamais avoir à le dire. Voilà, c'est terminé.
La première de la saison et la dernière. Nous allons vous parler aujourd'hui des illustres tandems cinématographiques entre un réalisateur et un compositeur. Bon, on pourrait décliner ça sur plein de choses parce que souvent les réalisateurs s'entourent d'une équipe souvent très proche, ça peut être le même directeur de la photo, le même scénariste,
ou même la même palanquée d'acteurs,
ou la même palanquée
la
d'acteurs,
tribu
la même,
qu'on retrouve d'un film à l'autre. Hein.
Bien sûr, mais là, on est plutôt musicaux, donc on va vous parler des grands tandems, des grands duos de musiciens et de réalisateurs. Évidemment, on pense à des gens comme Ennio Morricone et Sergio Leone ou Bernard Herrmann et Alfred Hitchcock, mais c'est pas ceux-là qu'on vous a choisi. Puis on parlera de quelques autres après. Moi, j'ai décidé finalement à contre-cœur, même si c'est des gens que j'apprécie beaucoup, j'aurais préféré faire des choses un peu plus underground.
Mais pourquoi pas?
Oui, parce que je vais te laisser enfin c'est pas tellement que ce soit underground ce que tu vas nous proposer, mais c'est un petit peu moins évident dans l'oreille des gens sans doute. Mais moi, je vais vous parler de Tim Burton et Danny Elfman, qui évidemment se prêtent volontiers au jeu. Essentiellement d'ailleurs pour une raison très précise, c'est que mis à part les premiers courts-métrages de Tim Burton, Danny Elfman a composé l'intégralité de la filmographie de Tim Burton, sauf un titre.
Que je suis censé deviner.
Avant de préparer l'émission, je savais qu'il y avait au moins un titre qu'il n'avait pas en commun. Et
un grand titre.
Et je m'étais trompé en fait, parce que je me suis dit que ça devait être forcément un titre qui était un petit peu en rupture esthétique, au moins. Pour qu'ils s'entendent pas nécessairement sur le travail. Et c'est pas tout à fait le cas. Toi, t'aurais pensé à quoi, par exemple?
Comme ça, hein. Ouais. Vraiment sans avoir réfléchi. On a préparé l'émission, mais on s'était dit qu'on le dirait pas avant. Je dirais Ed Wood.
Alors voilà, bravo. Alors bravo, parce que moi j'étais persuadé que c'était Big Fish, qui est un de ces films qui a le moins marché, qui est le moins codé visuellement. Et c'est quand même, enfin.
Par contre, me demande pas qui a composé la musique d'Ed Wood, parce que alors ça, je sais pas. Mais si tu préfères, j'essaie de recenser dans ma tête tous les films dont j'étais sûr, c'est-à-dire La Planète des Singes, Sleepy Hollow, Edward Scissorhands, tout ça. Et Ed Wood ne venait pas dans cette liste.
Ben, en l'occurrence, il semblerait que ça soit parce qu'ils avaient une brouille à ce moment-là. Enfin, c'est pas très clair. J'ai pas chopé d'infos très concrètes là-dessus. C'est Howard Shore,
ah,
qui
ouais
est plutôt le compositeur attitré de David Cronenberg, par ouais exemple, et puis
qui a fait quelques très belles musiques, un très grand Howard Shore. Il a fait la musique de Copland, ouais, par exemple, un film de James Mangold, pas très connu.
Et puis il a fait surtout beaucoup d'argent avec celle de la trilogie du Seigneur des Anneaux il y a pas si longtemps. Et Howard Shore, qui en fait s'est un petit peu mis dans les pompes de Danny Elfman pour la BO de Ed Wood, parce qu'elle est très très proche en termes d'arrangement, en termes de motifs et tout ça, de ce qu'a pu faire Danny Elfman. Mais je vous propose un premier extrait avant de vous évoquer la manière dont Elfman et Burton ont été amenés à travailler ensemble. Je vous propose un extrait d'une BO connue, mais pas citée parmi les premières du tandem, c'est celle de Batman Returns, le deuxième Batman, et c'est le thème qui concerne la naissance du pingouin. et qui, pour les exégètes du genre, contient toute la sève de la collaboration entre Elfman et Burton, parce que toute la dualité et du compositeur, je vous expliquerai pourquoi ensuite, et du réalisateur qui est toujours donc avec des personnages ambigus, ambivalents, coincés entre deux mondes, entre deux réalités, entre deux images. Pour les exégètes, donc cette ouverture, parce que c'est aussi l'ouverture du film, contient toute la sève de thématique des deux artistes. Je vous laisse écouter. Alors là, évidemment, plastiquement parlant, tous les motifs de Danny Elfman sont présents hein, sur ce morceau. La rythmique, les chœurs cristallins.
Le xylophone.
Le xylophone, vraiment tout y est. Alors, Elfman et Burton se sont rencontrés non pas dans une école de cinéma, ils n'ont pas été ou dans une école d'art où ils étaient ensemble. C'est juste parce que l'un était fan de l'autre dès le début. C'est Tim Burton qui était fan de Danny Elfman, qui était le leader du groupe Oingo Boingo. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on vous avait passé un extrait de la BO de Forbidden Zone,
oui,
qui était un film du frère de Danny Elfman et dont il avait composé la musique avec le groupe Oingo Boingo. Et ce groupe-là avait déjà dans sa discographie 5 albums quand ils vont commencer à collaborer Burton et Elfman, mais ils ont surtout un univers qui est assez proche de Burton, qui est qui repose sur des vampires, des morts vivants, des choses gothiques, mais en même temps assez burlesque dans le traitement, assez baroque. Danny Elfman, il est venu à Paris très tôt. Il a travaillé avec Jérôme Savary dans les années 70.
Ah ouais.
Ouais, il avait fait la musique du Grand Magic Circus. Donc il avait aussi ce côté européen et cirque. Donc
mais il a eu plusieurs vies, ce Danny Elfman.
Bah il a en fait Oingo Boingo, le groupe a été monté à Paris. Hein.
Ouais.
Donc c'est un groupe américain ils sont basés à Los Angeles finalement, mais au départ le frère de Danny Elfman était à Paris, il l'a rejoint là et ils ont commencé à travailler musicalement ensemble à ce moment-là à Paris. Et puis dans sa période parisienne, Elfman s'est imprégné de la musique plus européenne. Il était très très branché par Nino Rota par exemple, le comparse de Fellini, mais aussi par Kurt Weill, par toutes ces choses-là. Et donc il y avait ce
Kurt Weill, ça s'entend dans la musique de l'étrange Noël, ouais, de Monsieur Jack, c'est vraiment très net.
Ouais, ça s'entend vraiment. Et donc il a chopé ce côté très très européen, tout en ayant un lyrisme en revanche plus américain, plus grandes orgues, plus outrancier. Et donc lui, c'est sa finesse d'art, si je puis dire, se situe là. Et Tim Burton, dans Oingo Boingo, sentait vraiment beaucoup de complicité avec ce type. Et au moment de Pee-wee Herman, le premier film de Pee-wee Herman, Paul Reubens, c'était aussi le type qui fait Pee-wee, était aussi complètement accro au Oingo Boingo. C'est vraiment chiant à dire, Oingo Boingo.
Oui.
Et donc ils se sont entendus pour essayer d'approcher ce type et savoir s'ils pouvaient pas travailler ensemble. Et puis bah ils se sont évidemment très très bien entendus, puisque on a découlé une collaboration fructueuse. Donc puisque ça fait je sais pas combien de films a réalisé Burton, j'ai pas le nombre en tête, mais donc il y a une seule infidélité au cours de cette collaboration, parce que oui, ils ont vraiment senti une complicité thématique et des intérêts communs, quoi. Et donc je vous propose un deuxième extrait, non plus de Batman cette fois-ci, de L'étrange Noël de Monsieur Jack dont tu parlais à l'instant, mais c'est un extrait un petit peu particulier parce qu'en fait, sous forme de pirate, existent toutes les démos du film. C'est-à-dire qu'il a d'abord composé sur un piano, sur des petits instruments joués et tout ça, pour soumettre au fur et à mesure à Tim Burton son travail, savoir si ça l'intéressait ou non. Et donc, je vais vous proposer le thème de Oogie Boogie, fait à la maison, fait sur un petit 4 pistes à la maison, pour le soumettre ensuite à la production et savoir si Henry Selick et Tim Burton allaient lui dire banco pour la BO. Et donc, comme au sein de Oingo Boingo, là c'est Danny Elfman qui interprète lui-même le morceau en question. Et c'est vrai que là, le côté opéra de Katsu, le côté Kurt Weill, on le sent
ressort vachement mieux.
Ouais, les motifs sont vraiment très proches. Ouais.
Alors on peut trouver des démos justement que Danny Elfman proposait à Tim Burton sur les deux très beaux volumes de compilation. pas si difficile que ça à trouver sur internet. Va, ouais. Music from a Darkened Theater. Il y a des extraits de, évidemment, de Edouard aux mains d'argent, de Batman Returns dont tu as parlé tout à l'heure, mais aussi des films parfois un peu moins
connus. Oui, il a fait des choses moins intéressantes. Même s'il a fait des trucs sympas comme par exemple le générique des Simpsons, qui est dans un genre très très différent.
Qui se trouve aussi d'ailleurs. Non,
ouais. Il a fait quelques films beaucoup moins. Son travail est moins fameux. Je pense à Summersby par exemple.
Oui. Voilà. Je pense à ça aussi. Qui se trouve aussi sur ses compilations. Oui. Non, c'est vrai que c'est moins passionnant. Disons que c'est plus comme le tout venant du compositeur hollywoodien.
Diabolique aussi avec Isabella Gianni.
Ben, c'est un peu le problème des compositeurs qui composent beaucoup pour vivre. Ouais. Ils peuvent pas être géniaux.
Il a aussi eu faim de ça parce qu'au début, il a eu vachement de mal à s'imposer, même quand il était dans les jupes de Tim Burton, parce que l'époque de Batman, je sais pas si tu te souviens, l'album qui était sorti comme étant la BO officielle, c'était l'album de Prince.
Eh oui, c'était l'album de Prince. Ouais.
Qui avait le logo de la prod, qui avait l'affiche du film dessus, et il y avait que deux morceaux de ce disque en question qui était dedans, et la partition originale de Danny Elfman est sortie quasiment sous le manteau, était pas du tout mise en avant, et il a été longtemps un peu négligé par les distributeurs.
Parce que la Bad Dance, on ne l'écoutait pas à l'intérieur de Batman. Non, ça reprenait certains morceaux du dialogue du film, mais on n'écoutait pas la Bad Dance.
Et donc, après, il a eu soif de composer et d'être publié un maximum. Et c'était, dans la majeure partie des cas, ou en tous les cas les plus célèbres, tout à fait justifié.
Eh bien, une collaboration très fructueuse aussi, peut-être encore plus que Burton et Elfman, même si ceux-là n'ont pas dit leur dernier mot, alors que la mienne,
loin s'en faut d'ailleurs, parce que j'ai vu que le prochain Burton, qui s'appelle pour l'instant Sweeney Todd, qui est en pré-production avec Johnny Depp une fois de plus, sera composé par
Danny Elfman. Alors que moi, ma collaboration, hélas, elle ne portera plus de fruits puisque les deux collaborateurs sont morts tous les deux.
Ce qui complique
les choses. Enfin, pour le metteur en scène, donc il va falloir maintenant dire le nom, il s'agit de Philippe de Broca, et pour le compositeur, il s'agit de Georges Delerue. Une collaboration qui va quand même de 1959, Les Jeux de l'amour, à 1988, Chouan, c'est-à-dire qui s'étale sur quasiment 30 ans. Alors, de Broca, on va pas évidemment faire tout son historique pour le resituer, donc c'est quelqu'un qui est apparu au moment de la Nouvelle Vague, qui a été l'assistant de Truffaut, mais il s'est démarqué de la Nouvelle Vague en optant pour des films au marivaudage léger. Ça, c'est ses premiers films, fin des années 50, début des années 60. Et puis après, il a tourné le dos à ses premiers films, pour le film d'aventure épique et populaire avec un grand succès commercial. On peut citer Les Tribulations d'un Chinois en Chine, L'Homme de Rio, les films avec Bébel.
Un grand succès critique aussi, hein. Il n'était pas du tout fusillé par la Nouvelle Vague.
Non,
il était vraiment respecté dans son genre.
Hein. Il a réussi à obtenir les deux. Alors la rencontre avec Delerue, comme souvent les grandes rencontres, c'est souvent le fruit du hasard. En fait, De Broca avait vu une publicité dans la télévision naissante pour les soupes, pour les potages magie. Et celui qui faisait la musique, c'était Delerue. C'était des vaches qui dansaient sur un rythme de French Cancan. Et ça avait bien plu à De Broca, qui était...
On était loin du thème de Camille, alors.
Oui, qui était tout jeune à l'époque. Il avait juste 26 ans. Et il a téléphoné à Henri Colpi, qui était le metteur en scène de ce spot. Et il voulait absolument rencontrer Delerue. Il était prêt à tout, puisque Delerue était en vacances sur la côte. Et il a frappé à sa porte. Delerue l'a pris pour le livreur, parce qu'il était vraiment très très jeune, et c'est comme ça qu'a commencé leur collaboration. Donc avec le premier film, Les Jeux de l'amour, il s'agissait juste de composer une valse, mais avant Truffaut, avant Godard, avant Cavalier, avant Louis Malle, avant tous les grands metteurs en scène français pour lequel il allait travailler, c'est De Broca qui, on peut dire, a été le cinéaste qui a découvert Delerue. Delerue qui, et il faudrait une émission pour lui tout seul, parce que c'est une histoire assez incroyable, oui. C'est quand même un type qui vient, on va pas faire Germinal, pour lequel d'ailleurs il avait failli composer la musique, mais il vient d'un milieu ouvrier, il a bossé jusqu'à 18 ans en fabriquant des limes dans une usine familiale, en même temps il était au conservatoire. Enfin bref, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu ouvrier, le milieu des fanfares du Nord. En fait, La première grande musique de Broca avec Delerue, hein, de mon point de vue, c'est la musique qu'il va composer pour Cartouche, qui est d'ailleurs le premier grand succès populaire de Broca, et qui est une transition dans sa carrière.
Et qui avait pourtant eu un petit peu de soucis à cause de sa fin un peu noire. La production voulait pas la conserver, enfin c'était un petit peu compliqué, et il avait finalement réussi à obtenir un director's cut, terme à la mode aujourd'hui avec les DVD, dès le départ.
Ouais, et c'est d'ailleurs c'est la fin, c'est le plus beau moment du film. Alors je suis ravi que tu me parles de cette fin, parce que c'est là où comment dire, la musique de Delerue brille de tous ses feux. C'est la mort de Vénus, un très très beau thème qu'hélas nous n'écouterons pas. Voilà, ça c'est pour la frustration.
Il en faut toujours un peu.
Mais je vous encourage, hein, vous pouvez les trouver sur les très très belles compilations de Stéphane Le Rouge, ouais, qui s'appelle le cinéma de Philippe de Broca, et évidemment pratiquement toutes les musiques sont composées par Delerue. Non, on va juste écouter le générique du début, celle qui...
Très bien. Le main theme.
Voilà, exactement, qui recense les plus grands thèmes du film. Musique de Cartouche que nous écoutions à l'instant a aussi une petite histoire. En fait, c'est Ariane Mouchkine qui produisait ce film, hein, le moment où De Broca s'est mis au cinéma spectacle historique d'aventure, et Ariane Mouchkine faisait pas confiance à ce petit genou qui était Delerue, qui avait pas encore fait ses preuves, et elle lui avait suggéré Paul Misraki et Georges Van Paris, qui étaient des vétérans de la musique de film. Et puis il a tellement insisté, De Broca, que non seulement Mouchkine a accepté, mais à partir de ce moment-là, elle n'a plus juré que par Delerue. Donc, ce qui explique en partie cette grande collaboration. Alors, De Broca, justement, dans ce petit livret dont je parlais tout à l'heure, des disques de Stéphane Le Rouge, a bien trouvé, je trouve, ce qui fait la complémentarité du talent de Delerue avec le sien. Alors voilà, là j'ouvre les guillemets, voilà ce que dit De Broca, car voilà son génie, rendre palpable derrière un vernis de légèreté une insondable tristesse, une impression de la fragilité des êtres et des choses, que tout est perdu ou va se perdre. Le regard et l'apport de Delerue, c'était tout ce que je n'osais exprimer, tout ce que j'avais retenu au scénario ou au tournage. pour caricaturer, j'étais la désinvolture, il était la profondeur. Alors, on peut pas tellement s'en rendre compte sur cet extrait de Cartouche, mais on va bien s'en rendre compte sur le deuxième extrait musical que j'ai choisi. Il s'agit d'un extrait de la bande originale de Chouan. Alors, Chouan, c'est un film qui est très difficile à trouver. D'ailleurs, j'ai envie de m'insurger un petit peu contre la politique de réédition de certaines maisons cinématographiques.
C'était pas chez UGC, ça?
Pourquoi ne trouve-t-on pas Chouan? Pourquoi ne trouve-t-on pas Le Cavaleur? Vraiment l'œuvre de Philippe de Broca.
Et pourquoi ne trouve-t-on pas Le Prix du Danger? Je pense que tous ces gens-là étaient chez UGC, effectivement. Ouais. Hein. Il y a une dizaine, une quinzaine d'années, au milieu des années, les années 80 et un petit peu après, du catalogue français qui est pas du tout traité en DVD.
Mais c'est pareil aussi pour les films Les Années Lumière et Les Années Terribles.
Oui, qui sont en plein dedans. Ouais,
sont en plein aussi dans UGC. Là, il y a vraiment un véritable scandale. C'est une partie du patrimoine du cinéma français. Bon, excusez-moi, ça fait un peu pompeux de dire ça, parce que peut-être que Chouan n'est pas... Mais en même temps, on peut pas le critiquer, parce qu'on peut pas le revoir, ce film. Il passe pas à la télévision. Il y avait, c'était à l'époque une production à grand spectacle. Et même si le film est pas bon, ce sera au moins l'occasion de réécouter la magnifique partition de Georges Delerue. Là, il s'agit de La Lettre Volée. Très beau lyrisme de Georges Delerue pour la partition de Chouan.
Dans mon souvenir, me semble supérieur à la qualité du film. Mais
moi aussi,
pas
c'est uniquement le souvenir parce que c'est un film que j'ai vu dans sa première diffusion télé, donc je dirais vers 91-92. Donc vraiment, j'en ai un souvenir très.
Moi, j'ai une vague impression de photographie très vilaine, très brumeuse, très terne. Mais je sais pas si c'est un peu l'image télé VHS de l'époque.
C'est un peu le problème. Mais on peut pas se fier sur des vraies pièces. Alors juste une petite chose pour en terminer avec Delerue quand même, pour lui reconnaître cette spécificité, c'est quand même l'un des seuls à avoir apporté, il y a beaucoup de très très grands compositeurs français de musique, la collection de Stéphane Le Rouge le prouve, mais le lyrisme, ce côté romantique assumé de Delerue, c'est quelque chose qu'il a en propre et qu'on trouve pas forcément beaucoup dans les compositeurs français. D'ailleurs, il a été très apprécié par les Américains, il a fait beaucoup de musique films à Hollywood, Bruce Beresford, Ken Russell, et puis aussi des Bertrand Blier. Donc il a vraiment été préparer vos mouchoirs avec lesquels il avait obtenu un César.
Ce qui est pas trop mal avec les deux portraits qu'on vient de faire, c'est qu'on a dans un premier cas, donc avec Burton Elfman, deux mecs qui ont la même vision, qui se comprennent très bien, qui vont dans le même sens, et dans le cadre de Broca et Delerue, deux types qui se compléteraient davantage, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a un comme le confessait de Broca, qui apporte la tristesse, la mélancolie.
Et puis aussi, d'ailleurs, qu'on peut retrouver, c'est le défaut qu'on peut trouver à certaines partitions de Delerue, aussi l'emphase.
Oui, oui, bien sûr.
Parce que De Broca était toujours dans l'autodérision. Dès que ça devenait sérieux, il avait du mal. Alors que pas du tout avec Georges Delerue. Quoi.
Ouais, mais ce qui est un peu vrai aussi chez Burton, parce qu'il y a un certain recul, un certain second degré dans son image, et la musique est vachement plus premier degré, vachement plus lyrique aussi, je trouve. Même si elle est cocasse, burlesque, elle a quelque chose d'emphatique.
Quoi. C'est pas faux.
Pour conclure ce thème, évidemment qu'on pourrait encore dérouler sur des heures et des émissions.
Celui-là, oui.
Un tout petit jeu vite fait auquel vous pouvez participer chez vous. Je vais proposer à mon ami Sonic quelques noms de réalisateurs et il va essayer de me donner le compositeur fétiche du réalisateur en question. Si je te dis par exemple, Luc Besson,
Eric Serra.
On commence avec le meilleur.
Oh, je suis pas fier.
Si je te parle de David Lynch.
Angelo Badalamenti. J'aurais pu le prendre aussi.
Qui est son compositeur principal, même s'il a pas fait toutes les musiques de Lynch, qui a pourtant peu tourné.
Lynch, au départ,
composait ses musiques lui-même. D'ailleurs, c'est un cas qu'on aurait pu traiter aussi, les réalisateurs qui font eux-mêmes leur musique. Au départ, il composait lui-même. Il a ensuite été épaulé par John Morris. Et John Morris est le compositeur attitré de Mel Brooks. Mais Mel Brooks a produit David Lynch, donc il lui avait confié un compositeur, et ensuite est arrivé Angelo Badalamenti. Alors un petit peu plus dur, parce qu'on y fait moins gaffe finalement, les frères Cohen. Parce que les frères Cohen, c'est peut-être une exception ou deux, toujours le même mec qui a fait leur musique, mais on les a pas dans l'oreille, les BO. Hein.
Ah non.
C'est Carter Burwell.
Ah, j'aurais jamais trouvé, sans regret.
Alors ça, c'est pas tout à fait vrai non plus, parce qu'il y a plusieurs périodes. Si je te propose Stanley Kubrick, tu me répondras certainement.
Personne.
Alex North.
Ah, Alex North, bien
mais
sûr.
C'est
la
pas
musique
tout à fait
de
vrai.
Spartacus,
ouais, c'est
de
pas
Lolita.
Tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il est un peu là dans la première manière, mais Kubrick abandonnera l'idée de musique originale.
J'ai une bonne excuse. Je pensais au film de Kubrick de la dernière période.
Et voilà. Et en dernière période, en fait, il reprenait.
Parce
juste
qu'il est pas là dans Barry Lyndon.
Non. Il reprenait que du répertoire réorchestré, mais il faisait plus de musique originale. Qu'est-ce que je pourrais te proposer encore? Yves Robert, tiens. Yves Robert, il a le compositeur attitré de plein d'autres époques, Vladimir Cosma.
Ouf.
Et Vladimir Cosma a dû faire quasiment l'intégralité aussi d'Yves Robert. Et
j'aurais pu dire ça aussi pour Gérard Rouri aussi.
Et, ou Claude Zidi. Ouais, voilà, non, c'est qu'il est attitré pour plein de gens à cette époque-là. En fait, c'est plutôt un compositeur, on n'a pas évoqué ça, un compositeur de studio, enfin de producteur. C'est-à-dire que il était complètement lié à la Gaumont et à Hollywood dans les années 40-50. Il y avait des compositeurs qui n'étaient pas spécialement fétiches avec un réalisateur, mais avec un studio. Ouais. Et du coup, quand il y avait des réalisateurs
pour Waxman, par exemple,
pour Waxman,
avec
Steiner
avec
ou des choses comme ça, se sont retrouvés, par exemple, à illustrer Hitchcock parce qu'Hitchcock était dans la maison, voilà. Du coup, par la force des choses, il y a eu des collaborations qui ont été quasiment forcées parce que, par exemple, dans le cas d'Hitchcock, il s'en foutait un petit peu des compositeurs qu'il avait dans un premier temps, même si, enfin, il a d'ailleurs toujours dit qu'il s'en foutait des compositeurs, même de Bernard Herrmann. Mais voilà, il en a eu de collé d'office parce que Waxman, je crois, a dû faire autant de films, il a dû en faire 9 aussi pour Hitchcock, autant que Bernard Herrmann.
Ah ouais.
Mais on retient que Herrmann en fait. Bon, je vais conclure avec un truc presque faux. Si je te propose Sofia Coppola.
Si tu me proposes Sofia Coppola, je te réponds R.
R, voilà. Mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, ils font une première BO intégrale, ils font 4 morceaux sur la suivante et ils ont plus qu'un titre dans le dernier. Bon, on va conclure là, évidemment. Il y avait donc dans les tandems qu'on se proposait là, l'occasion de faire plein d'autres émissions, ce qu'on manquera pas de faire quand on aura pu. L'idée sous le coude. Bon, se laissant emporter par notre faconde, évidemment, on est à la bourre. Donc cette nouvelle rubrique,
c'est un thème qui nous plaisait.
Du Secret Garden, je vais pas tellement vous expliquer qui sont les M83 pour moi. Enfin, c'est un duo français, un duo plutôt électronique et musique bruitiste introspective. Ils sont du côté de Mogwai, de Plaid, de Godspeed Your Black Emperor ou de Boards of Canada. Je vous propose un extrait remixé de leur deuxième album. Le titre s'appelle Running to Flower, remixé par Abstract Kilogram, qui est aussi un duo électronique français. Et ça me met toujours les poils dressés sur le dos. What's up, dog? Alors évidemment avec ce retard c'est une torture.
Ah oui, c'est une torture pour moi de l'arrêter. C'est très très bien.
Mais on va passer vite fait à cette dernière petite rubrique des blind tests et on vous propose deux morceaux pour la semaine prochaine. Écoutez donc. Alors donc deux extraits qui seront une nouveauté et une reprise, et la nouveauté nous est proposée donc par
Sonic Eric lui-même.
Did you hear? Listen at your order. Those most deserving will end up with the most. That the cream cannot help but always rise up to the top. Well, I say, shit floats.
Bon, je pense que tout le monde a trouvé là.
Ouais, vous avez une petite semaine pour trouver, mais normalement ouais. Ça devrait être bon parce que moi, je ne savais pas ce que c'était. J'ai trouvé évidemment.
Dès que la voix s'est lancée, il y a plus aucun doute.
Alors, quant à moi, donc, je vais vous proposer la reprise de la semaine. Le jeu, c'est de trouver groupe reprenant, groupe repris. Et puis ça, évidemment, ça devrait pas être très dur non plus.
Non.
La langue doit aider, les arrangements, la voix de la jeune femme. Tout ça, à mon avis, du domaine du possible. Donc, on débriefera tout ça la semaine prochaine en parlant un petit peu plus longuement, en se repassant éventuellement un peu l'extrait en fond. Et puis, on essaiera d'être un peu plus carré dans le timing. On avait bien démarré,
on a coincé. C'est la folie du jeu
coup,
qui nous a repris.
J'ai un petit peu sacrifié mes M83. Enfin bon, c'est pas très grave. On se retrouve la semaine prochaine et je pense que ça sera d'un tonneau équivalent.
À très bientôt.